Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fréquence Association comme chaque jeudi matin. Cette semaine, plusieurs sujets. On va tout d'abord s'intéresser à la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, sur la greffe et sur la reconnaissance des donneurs. Et nous accueillons ce matin Josette Boussemard. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association France Adopt 62, association pour le don d'organes et de tissus humains. Et vous allez nous parler donc de cette journée nationale qui aura lieu ce lundi 22 juin dans toute la France. Alors tout d'abord, Josette Boussemard, quel est l'objectif de cette journée ?
En fait, l'objectif de cette journée est de sensibiliser la population au fait qu'il faut en parler à ses proches, se positionner et faire part de son de sa décision. En fait, nous sommes tous présumés donneurs, mais nous avons la liberté de refus, et depuis le 1er janvier 2017, la loi a changé. Ce refus doit être absolument écrit. Alors, faute de l'avoir écrit, justement, la famille, dans la détresse, s'oppose au don d'organes de leur défunt.
Donc l'important, c'est encore et toujours sur ce sujet du don d'organes et du tissu de prendre position. Alors concrètement, comment faire ?
C'est le mot-clé. Eh bien en fait, en parler, tout simplement, faire part à ses proches de sa position. Hein, c'est-à-dire que je suis pour le don d'organes, pas de souci. Je ne suis pas pour le don d'organes. Je m'inscris, alors trois possibilités au refus de prélèvement. S'inscrire sur le registre national de refus en ligne. C'est pas facile pour tout le monde. Oui. Donner à ses proches un écrit daté et signé exprimant son refus. Alors, cet écrit sera remis à l'équipe de coordination au moment du prélèvement d'organes, au moment du décès, et ou faire part oralement de son refus à ses proches. Et ceux-ci devront alors en témoigner par écrit et remettre le document daté et signé à l'équipe de coordination.
Voilà, et donc effectivement, le plus simple, j'imagine, c'est ce registre national des refus. Enfin,
Il est irréversible, on peut y revenir,
oui.
Et il peut être partiel.
Oui.
Il peut être partiel, on peut ne pas vouloir donner son cœur, pour des raisons qui sont propres à chacun, et cette démarche peut être faite à partir de l'âge de 13 ans.
D'accord.
Sans avoir à consulter les parents, mais ce que l'on doit savoir, c'est qu'il est absolument réversible. Alors, il y a aussi un autre moyen, si je peux dire, plus pérenne de choisir, c'est de porter sur soi la carte d'ambassadeur, je ne dirais pas la carte de donneur, parce qu'elle ne s'appelle plus carte de donneur. C'est une carte qui n'a jamais été légale,
oui.
Pas illégale non plus, mais c'est le reflet d'une position. Et à partir du moment où on a cette carte, ça permet, chez beaucoup de personnes, d'aborder la conversation et de dire, vous voyez, moi j'ai sur moi cette carte. Elle veut dire que s'il m'arrivait quelque chose, je suis pour le don d'organes. Hein, et justement, les proches en parlent, on entame une conversation et on fait part de, justement, toujours sa position. C'est le mot-clé.
Voilà, ça permet justement au personnel médical de faciliter les décisions également, hein, puisque évidemment il y a tout un processus.
C'est une tâche pas facile pour l'équipe de coordination, parce qu'on leur annonce l'accident, qu'il soit rupture d'anévrisme, accident de la circulation, on leur annonce la mort encéphalique, l'arrêt du cerveau, on leur dit que c'est irréversible. Et après avoir consulté le registre des refus, parce que si la personne est inscrite sur le registre des refus, dont acte, c'est terminé. Et si la personne n'est pas inscrite, eh ben la question est toujours posée aux proches, quel qu'il soit, puisque la notion de proche est vague, est étendue. On pose la question de savoir quelle était la position du défunt. Toujours quelle était la position du défunt, non pas la position de la famille, par rapport au don d'organes. Voilà.
Alors cette campagne concernant la journée de réflexion nationale sur le don d'organes, de greffe et également de reconnaissance à un des donneurs, cette campagne arbore un ruban vert. Alors pourquoi avoir choisi ce symbole ?
En fait, c'est depuis 2019 Ce ruban vert est le symbole des associations soutenant le don d'organes et de tissus. Il a été unanimement adopté donc en 2019, comme je vous disais, à l'occasion de cette grande journée du 22 juin. Il rappelle à tout citoyen que la loi française, en fait, c'est-à-dire que nous sommes tous présumés donneurs, sauf si nous avons exprimé notre refus de notre vivant. Mmh. Et en fait, c'est aussi le signe distinctif de la gratitude exprimée par la société à tous les donneurs d'organes et de tissus. C'est un lien qui unit tous, que ce soit des équipes chirurgicales, les coordinations, les familles de donneurs, le public, les bénévoles, enfin, celles et ceux qui veulent donner...
Oui.
Qui veulent donner et qui ont donné, en fait. Hein, parce que cette journée, effectivement, elle est journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la grève, mais depuis 2004, ce qu'elle a de plus quand même, la loi de bioéthique, en fait, a eu un amendement, c'est qu'il y a une reconnaissance aux donneurs. Et justement, depuis 2004, il y a un article qui stipule que dans tout établissement hospitalier, dans lequel il y a une équipe de coordination, dans lequel les prélèvements d'organes se font, un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs doit exister, doit être créé. Il en existe un à Calais qui a été inauguré l'année dernière, à Boulogne, à Lens.
Oui.
Je réfléchis à Beuvry, pense.
Et il devait y en avoir un également à Arras, mais ce n'est pas encore le cas, hein, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. C'est en point de suspension.
D'accord.
Voilà.
Un petit mot pour terminer. Josette Boussemard, est-ce que justement, ce lundi 22 juin, il y a des choses spécifiques organisées par votre association en plus de cette journée, en plus de cette journée de réflexion et par rapport aussi bien aux règles qui prévalent au niveau du déconfinement?
Oui, malheureusement non. Malheureusement non, parce qu'en fait, nous n'avons donc pas accès au niveau des collèges, des associations, justement, eu égard aux consignes, aux mesures sanitaires, en fait. Et de surcroît, nos bénévoles qui interviennent sont pratiquement tous greffés, et ils tiennent à ce précieux cadeau qui leur a été fait, ils ne veulent pas le mettre en danger. Alors en fait, justement, l'association a été un petit peu en stand-by.
Oui.
Hein, il y a actuellement un spot radio qui est pas mal et qui peut être aussi écouté, mais de toute façon, vous savez, Monsieur Mandin, c'est que le mot-clé, deux points, prenez position. Parlez-en à vos proches. Alors par rapport à cette carte d'ambassadeur, finalement, il est possible de l'avoir auprès de moi, en fait, hein, par le site www.france-adot.org, par courrier à mon adresse perso qui figure sur le site national, par téléphone aussi, mes coordonnées sont sur ce site. Et puis par rapport au ruban vert, effectivement, j'ai une dotation de ruban vert. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas faire du porte-à-porte ou du ville à ville ou du pharmacie à pharmacie. Alors, ce que je peux faire, c'est justement les personnes... je vais rappeler mon adresse personnelle, hein, elle n'a rien de confidentiel. 6 rue du 14 juillet à Huby-Saint-Leu, 62 140, alors Boussemard-Josette ou France Adot 62. Et vous pouvez me demander un ruban vert que je vous mettrai sous enveloppe pour justement que vous soyez notre lien.
Très bien, Josette Boussemard. Alors juste un dernier mot, peut-être quand même par rapport à l'épidémie de coronavirus. Il y avait des personnes qui étaient en attente effectivement de dons d'organes. Juste nous dire comment, à votre connaissance, ça s'est passé. Est-ce que ça a pu se poursuivre malgré l'épidémie?
Pour les cas les plus urgents.
Oui.
Pour vraiment les cas les plus urgents où le fait de ne pas être greffé pouvait provoquer la mort très rapidement. L'activité reprend un peu parce que les établissements hospitaliers, les grands établissements hospitaliers parisiens et Lille aussi pour nous, pour le cœur, le rein et les poumons, mais il y a eu vraiment un ralenti et on espère justement... les établissements hospitaliers reprenant, de toute façon, vous savez, pour être greffé, il faut être sur une liste d'urgence.
Oui.
Donc, et on espère que justement le nombre de donneurs potentiels, de personnes qui se mobiliseront pour le don d'organes, il faut savoir aussi, vous savez, qu'il faut prendre position, soit.
Oui.
On veut ou on ne veut pas, soit. Mais surtout aussi ne pas oublier que la maladie n'arrive pas que chez les autres et qu'à partir du moment où on a besoin d'un organe, on est bien content de l'avoir, je pense. Vous savez, tous les greffiers qui sont interviewés disent merci. La seule chose qu'ils regrettent, c'est de ne pas pouvoir savoir
qui. Oui.
Qui. Les personnes qui ont donné, j'ai des familles qui sont familles de donneurs d'organes et qui, justement, si des greffés m'entendaient, qui attendent un petit signe de leur part qui fait ressortir qu'ils vont bien.
Oui.
Alors en fait, ce petit signe est fait via l'équipe de coordination, quel que soit l'hôpital dans lequel ça s'est fait, c'est anonyme bien évidemment. Les familles ont nos connaissances toujours anonymement, mais ils savent par exemple que le cœur de leur fils va bien.
Mmh.
Et les familles de donneurs attendent, sont en attente.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Josette Boussemard, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de France Adopte 62 et qu'a lieu donc cette journée nationale lundi 22 juin dans toute la France, journée nationale de réflexion sur le don d'organes, sur la greffe et sur la reconnaissance des donneurs. Et j'en profite pour dire que nous développerons plus longuement ce sujet du don d'organes et de tissus à une date ultérieure. Et puis on rappelle, on n'en a pas forcément conscience, hein, mais comme vous le rappeliez, beaucoup de personnes justement qui ont bénéficié d'une greffe d'organes sont extrêmement reconnaissants, et ils sont quand même plus de 63 000 actuellement en France, hein, donc chaque
ouais.
année, voilà, il ouais. y a beaucoup de personnes ouais. qui ont reçu ce don. Hein.
Oui, et vous savez, je souris là, en terminant notre échange, en fait, c'est que la greffe, ça marche. Moi, je dis tout le temps que c'est de la couture. Hein.
Mmh.
Vous savez, c'est comme un échange standard de moteur. Hein.
Voilà, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien
et ça a une longévité qui est variable, bien sûr. Mais ces personnes, si elles n'avaient pas bénéficié de la générosité d'un donneur et d'une famille qui a respecté la volonté, c'est toujours pareil. Très morte aujourd'hui.
Merci beaucoup, Josette Boussemard, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle l'adresse de votre site internet, le www.france-adote.org, et vous avez également une page Facebook France Adote 62 sur laquelle d'ailleurs on retrouve pas mal de nouvelles de personnes hein, que vous suivez.
Et puis bon, si les personnes souhaitent un ruban vert, qu'elles aillent sur le site, il y a mes coordonnées personnelles. Un petit courrier, un petit appel, et puis voilà.
Très bien, merci beaucoup, très bonne journée à vous.
Je vous en ferai parvenir.
Eh bien c'est gentil, avec plaisir.
Voilà.
Merci.
Bonne journée.
Merci vous aussi, au revoir.
Au revoir.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Je sais ton amour, je sais l'eau versée sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien, j'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens. Rien ne nous retient, rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, seul que j'aimerais plus que personne, si tu veux qu'on s'apprête. Si tu veux qu'on s'apprenne, Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent couvrent et découvrent. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. J'ai l'avenir gravé dans ta main, j'ai l'avenir tracé comme tu l'écris. Tiens, rien ne nous emmène plus loin qu'un geste qui revient. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais plus que personne. Si tu me consacrais,
si tu me consacrais,
si tu me consacrais.
Mon essentiel.
Si tu veux qu'on s'apprenne, qu'on s'appartienne.
Emmanuel Moire, Mon essentiel sur Radio Plus. Alors, de retour hein, dans Fréquence Association, un tout autre sujet à présent, celui de l'engouement pour le vélo qui a été constaté un peu partout suite au confinement et comme une alternative crédible à d'autres modes de transport, notamment en milieu urbain. Comment rouler cependant en ville en toute sécurité, c'est une des problématiques de l'association Droit au vélo. Nos confrères de RPL Radio à Lambersart ont interviewé Yves Lepinet, le correspondant local et administrateur pour l'association Droit au vélo à Lille le 28 mai dernier.
Et si le déconfinement était pour chacun l'occasion de se remettre en selle ? C'est en tout cas ce que soutient l'association Droit au vélo à Lille. Sa principale mission ? Promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, notamment en milieu urbain et ici au sein de la métropole lilloise. Alors que certains ont déjà franchi le pas du vélo, de nouveaux aménagements cyclables ainsi que différentes aides et plateformes de vente et réparation se sont développés en parallèle. Le 28 mai dernier, Yves Lepinet, correspondant local et administrateur pour l'association Droit au vélo à Lille, revient sur la période de confinement et ses conséquences sur l'utilisation du vélo. Pendant et hors période de crise sanitaire, l'association Droit au vélo travaille main dans la main avec les différentes collectivités ainsi que les cyclistes lillois pour assurer une pratique du vélo en ville de manière sûre et accessible.
Alors, l'association Droit au vélo pratique beaucoup la concertation avec les collectivités pour la mise en œuvre des aménagements cyclables, que sont les pistes cyclables, les stationnements, tout ce qui tourne autour du vélo. Et on propose aussi des ateliers de remise en selle, des ateliers de réparation de vélo et tout un tas de balades qui sont organisées régulièrement. Les opérations de remise en selle visent à accompagner les personnes qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps à les accompagner, c'est-à-dire on les prend dans un endroit sécurisé, on leur confie un vélo et puis on les réhabitue à circuler à vélo, à prendre confiance, parce que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui n'a pas fait de vélo depuis longtemps de pouvoir se déplacer dans les rues à vélo.
Comme pour la majorité des Français, l'activité de l'association a été perturbée par la mise en place du confinement. Mais le plus dur pour ces passionnés de vélo a été de ne pas pouvoir pratiquer leur activité favorite. Pourtant, face à un soudain regain d'intérêt pour le vélo en ville, l'association a dû faire preuve de réactivité.
Heureusement, on a pu continuer à travailler et notamment on a pu proposer des aménagements dans le cadre du déconfinement. Et on a travaillé avec les services de la MEL et de la ville pour proposer des itinéraires et c'est ce qui a abouti aux fameuses coronapistes, c'est-à-dire les pistes cyclables temporaires qui ont été faites sur certaines rues et certains boulevards de la ville.
Des coronapistes créées pour encourager la pratique du vélo tout en assurant la distanciation sociale nécessaire à chacun.
Les aménagements dits coronapistes sont des petits morceaux qui ont été faits. Bon, en dehors du contexte, ils n'ont pas vraiment d'intérêt, mais ils ont été choisis à ces endroits-là parce qu'ils permettent de relier des points importants. Ça permet d'assurer une continuité des itinéraires cyclables.
Un nouvel intérêt pour le vélo étroitement lié à la période complexe du déconfinement.
C'est sûr que depuis quelques jours, quelques semaines, les cyclistes anticipent leurs moyens de déplacement post-confinement. Et on a été beaucoup sollicités par les adhérents et aussi par des nouvelles personnes qui souhaitent se mettre au vélo de manière à éviter les transports en commun, qui sont quand même assez craints à cause des risques sanitaires, et d'éviter de reprendre la voiture forcément. Donc pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions de sécurité et sans prendre sa voiture, ça suppose de prendre le vélo. Donc on a été vraiment très sollicité par des adhérents. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un forum sur le site internet de l'association, droitauvélo.org, sur lequel on a échangé tous les bons plans en matière d'achat de vélo, d'itinéraire, de réparation, de stationnement, pour que les personnes qui se mettent nouvellement au vélo ne soient pas désemparées et soient accompagnées dans leur changement de mode de déplacement.
Et si, en période de déconfinement, le vélo a de nombreux avantages, il ne faut pas oublier non plus que son utilisation au quotidien réserve aussi de nombreux bénéfices.
Indépendamment de la crise, il y a énormément de bonnes raisons de circuler à vélo. Il y a principalement le fait que c'est efficace. Pour les trajets courts, le vélo est bien plus efficace que les transports en commun ou la voiture. C'est économique, le coût d'un vélo est sans commune mesure avec le coût d'une voiture. Et c'est bon pour l'environnement, puisque notamment à Lille, il y a énormément de problèmes de pollution. Les vélos peuvent permettre de contribuer à l'émission de particules fines, notamment des moteurs diesel. Et c'est bon pour la santé, et c'est peut-être le point le plus important, c'est que notamment en période de reprise post-confinement, on a besoin d'un peu d'exercice, et le vélo permet de pratiquer de l'exercice, je dirais en faisant une paire de coups, puisque on peut faire de l'exercice physique tout en assurant nos déplacements quotidiens.
Le vélo, un moyen de transport sain qui combine de nombreux avantages, autant pour la santé de ses utilisateurs que pour l'environnement. Si en période de confinement l'intérêt envers la bicyclette grandit, ce n'est pas pour rien. Ce transport individuel assure en effet une certaine sécurité sanitaire s'il se fait dans le respect de la distanciation sociale davantage possible avec la mise en place des coronapistes. Un engouement naturel vers le vélo qui pourrait, après la période de crise sanitaire, continuer à faire de nombreux adeptes.
Alors j'espère que ça va fidéliser les gens, bien sûr, mais j'ai pas beaucoup de doutes, parce que c'est au-delà de cette période de crise, c'est quand même une tendance de fond. Ça fait maintenant 3 ans qu'on constate une augmentation de 20% par an de la pratique sur la métropole. Indépendamment de la crise du coronavirus, ça aurait de toute façon augmenté du fait de l'augmentation des coûts des transports, du fait de la pollution et du fait des restrictions qui sont faites sur l'automobile à Lille. Donc je pense que ça va se pérenniser et je pense que ça ne fait qu'accélérer une démarche de fond, mais progressivement mais sûrement la part des déplacements à vélo va augmenter de manière significative.
Alors, si vous décidez de rejoindre les pistes cyclables de la métropole, sachez que certaines aides ont été mises en place pour accompagner les nouveaux usagers dans cette pratique.
Au niveau national, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé des plans pour aider les collectivités à réaliser les aménagements. Donc, c'est un plan de 20 millions d'euros et qui comprend aussi l'aide à la réparation des vélos. Donc le principe, c'est qu'on peut bénéficier d'une aide de 50 euros si on fait réparer son vélo chez un réparateur agréé. Alors nous, notre rôle dans tout ça, c'est la concertation avec les collectivités. Grosso modo, on apporte notre expertise d'usager aux collectivités pour la réalisation des aménagements. Et pour ce qui est de l'aide à la réparation, on se contente de communiquer sur les réparateurs agréés. Mais tout ça, c'est géré directement par les services de l'État.
Pour vous équiper, Yves Lépinet vous apporte quelques recommandations.
Un vélo qui fonctionne bien, c'est la base, en bon état. Donc moi, ce que je conseille, c'est de réparer les vélos parce qu'il y a beaucoup de vélos qui peuvent être réparés facilement. soit chez un réparateur connu, donc je peux pas les citer, mais des vendeurs réparateurs de vélos sur la métropole, il y en a quelques-uns, soit d'ateliers d'aide à la réparation qui accueillent les cyclistes, qui prêtent le matériel et qui aident les cyclistes à réparer eux-mêmes leur vélo. Ensuite, un conseil qui est général et qui vaut tout le temps, c'est aussi d'investir dans un bon antivol, puisque si vous passez du temps à réparer votre vélo, vous serez très contrarié si on vous le vole. Donc, ce que nous, on conseille, c'est de bien attacher les vélos avec des huts très solides.
Question sécurité, il est important d'être vigilant et de ne pas négliger les risques qui existent aussi à vélo.
Bien sûr, c'est comme tout mode de déplacement, ça comporte des risques, mais bon, il faut pas non plus les surestimer. Et puis, c'est pour ça que nous, on réclame de plus en plus d'aménagements cyclables qui visent à sécuriser au maximum les trajets à vélo. Et on souhaite que ces aménagements soient continus et de manière à ce que les cyclistes n'aient pas à en sortir pour se retrouver dans une situation à risque. Donc, pour diminuer le risque de la pratique du vélo, eh bien on travaille d'abord sur la qualité des aménagements. Ensuite, on travaille sur la réduction de la vitesse des voitures. Donc, par exemple, la mise de la ville de Lille en zone 30, ça contribue à diminuer le sentiment d'insécurité. Et enfin, on compte aussi sur la responsabilité des gens et le fait que les automobilistes et les cyclistes prennent en compte les nouveaux usagers et fassent preuve de courtoisie et d'attention à l'égard de tous les usagers de la route.
De nouveaux comportements de la part de chacun sont donc nécessaires pour assurer la sécurité des nouveaux usagers de la route à vélo. Et pour ceux qui hésitent encore, Yves Lépinay invite, le 28 mai dernier, à oser changer son moyen de déplacement.
Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Je pense que là, c'est le printemps. On reprend le travail. On est déconfiné. C'est le moment ou jamais de se mettre au vélo. Et je suis sûr qu'une fois que vous aurez goûté à ce mode de déplacement, vous reviendrez plus en arrière.
Si vous souhaitez retrouver le plan des différentes coronapistes, rendez-vous sur le site de la mairie de Lille ou sur le site de l'association droitauvélo.org. Vous y trouverez également tous les itinéraires accessibles à vélo dans la métropole lilloise, ainsi que différentes ressources qui répondront à toutes vos questions concernant la pratique du vélo. Un reportage réalisé par Manon Seren pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et je m'entends bien sûr avec la bicyclette sur Radio Plus. Vous êtes toujours dans Fréquence Association. Quelques sports reprennent timidement pendant le déconfinement. C'est le cas du badminton qui est proposé au sein du Volant Airois, un club situé à Aire-sur-la-Lys. Banquise FM a interrogé le président du Volant Airois, Frédéric Ducrot, le 8 juin dernier.
Du côté du monde sportif, le déconfinement se fait petit à petit et la reprise des matchs n'aura pas lieu avant septembre, tout du moins en public. À Aire-sur-la-Lys, le club de badminton Le Volant Airois va enfin pouvoir accueillir à nouveau ses licenciés, sous certaines conditions. Nous avons échangé le 8 juin dernier, jour de reprise, avec le président de l'association, Frédéric Ducrot. Il nous en dit plus sur l'impact qu'a cette crise sanitaire sur l'activité du club.
Alors notre club, c'est le Volant Airois, club de badminton basé à Aire-sur-la-Lys. On a 390 licenciés cette saison. Nous sommes un club formateur, beaucoup de jeunes, 250 jeunes, le reste bien sûr en adultes. Un pôle compétitif qui est assez important, puisque on a des équipes qui jouent au plus haut niveau français, on a des joueurs qui sont dans le top 10 français, on a des jeunes qui jouent au niveau interrégional, régional et national. Donc voilà, une activité assez importante, un encadrement salarié, puisque nos encadrants sont diplômés d'État et sont salariés du club, ce qui nous permet d'avoir normalement une activité journalière.
Et donc, on le rappelle, vous êtes aussi le club des Hauts-de-France qui a le plus de licenciés, c'est ça ?
Bah, il paraît, oui, il paraît qu'on est. Ça fait 2 ans qu'on a le plus de licenciés parmi tous les Hauts-de-France. Donc bon, maintenant, on va pas me mettre une médaille pour ça, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que les gens répondent présents, et c'est intéressant et c'est valorisant aussi pour le travail qui est fait auprès des jeunes et des moins jeunes.
Et alors, on va parler maintenant de cette période assez particulière. D'abord, comment ça s'est passé pour vous le 14 mars dernier, quand on a dû mettre un arrêt total au match qui était prévu ?
Ben oui, déjà ça a été mal perçu au départ, puisque ce samedi-là, on devait recevoir une journée d'interclub et on recevait Strasbourg en top 12. Et coup d'arrêt le jeudi, la fédération annule toutes les journées d'interclub. Alors un peu difficile à encaisser, puisque tout était prêt. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais des achats étaient prévus, les joueurs, les billets soit de train ou d'avion pour les joueurs étaient prévus. Donc on s'est retrouvé le bec dans l'eau, comme on dit. Et puis dans la lancée, on a dû fermer le club. On a été contraint de fermer les portes complètes au 16 mars. Donc depuis le 16 mars, le club est totalement fermé. Et puis là-dessus s'enchaîne la mise au chômage partiel de nos salariés. Alors on n'est pas une entreprise, mais on a les mêmes contraintes. Donc voilà comment ça s'est passé. On a mis la clé sous la porte.
On rappelle, oui, d'ailleurs, que vous avez un complexe sportif qui vous permet d'accueillir des matchs, des licenciés de partout, et donc le complexe est fermé également.
Oui, tout à fait, comme quasiment tous les gymnases en France, même les centres nationaux dans les différents sports ont été fermés, tout s'est arrêté, comme chacun le sait, et donc le complexe sportif régional qui dépend de la région a été lui aussi fermé, donc pas d'accès, pas de jeu, plus de possibilités. Bon, ce qui était compréhensible avec les décisions qui ont été prises pour ce confinement, bien sûr.
Et alors, comment on s'adapte dans ces cas-là pour toujours être en contact, notamment avec vos licenciés ?
Alors, on a fait comme on a pu. On a utilisé la page Facebook du club, les réseaux sociaux. On a publié, je dirais, des petites news. Alors, un par rapport à nos partenaires privés aussi, qui certains se sont remis à une activité partielle. Donc, on publiait un petit peu cette actualité. On proposait aussi les décisions ministérielles au fur et à mesure qu'on avait des informations. On continuait à informer les licenciés. Un de nos entraîneurs a publié, a envoyé des exercices aux jeunes à faire et à suivre. L'autre a envoyé des exercices pour les compétiteurs seniors. Donc chacun avait un petit peu d'infos. Maintenant, ça restait vraiment la grande distance et on a fait comme on a pu. Et là, on va leur redonner, je pense, une très bonne nouvelle aujourd'hui.
Oui, alors on va en parler un peu plus en détail, mais avant ça, au niveau financier, quel impact a cette crise sanitaire sur votre association ?
Eh ben, l'impact est clair et simple à comprendre, c'est que depuis le 16 mars, il n'y a aucune rentrée d'argent. Donc il faut savoir qu'habituellement, c'est tout bête, mais on organise des manifestations sportives qui génèrent des fonds. On ouvre le clubhouse le vendredi. Pareil, ça fait rentrer un peu de subsides dans le club. Alors certes, on n'a pas eu les mêmes dépenses au niveau des compétitions, notamment des interclubs, comme c'était le cas auparavant. Mais il faut verser les salaires. On est aidé par l'État puisque on a déclenché le chômage partiel. Mais comparé à l'année dernière, puisqu'on compare avec 2019, nous, concrètement, là, c'est sur 2 mois, avril-mai, c'est un décalage de 10 000 euros net, donc de non-rentrée d'argent pour le club.
Et c'est vrai qu'on oublie souvent que pas de match, pas de rentrée d'argent aussi. Et je suppose que c'est la même chose pour beaucoup de clubs de la région dans tous les domaines sportifs.
Oui, on a eu là dernièrement des nouvelles du club de foot de Saint-Omer, le club de rink hockey de Saint-Omer, puisqu'on doit être 4 ou 5 clubs de la CAPSO à être connus comme club de haut niveau. Et bon, voilà, tout le monde est dans la même situation. Maintenant, que voulez-vous, sortez avant tout. Il faut faire avec. Donc là, on va essayer de trouver des moyens pour la rentrée. Alors, je suis pas non plus super inquiet, mais il est évident que il va falloir que l'on trouve des solutions. On va essayer de resolliciter nos partenaires privés, mais eux, pareil, ont été dans la même situation que nous et on le comprend parfaitement. Donc on va tenter de faire un maximum là pendant 2 mois pour retrouver la confiance de nos licenciés, retrouver la confiance de nos partenaires et je l'espère entamer la nouvelle saison du mieux possible.
Heureusement, les bonnes nouvelles arrivent et les licenciés vont enfin pouvoir retrouver leur complexe sportif à Air sur la Lys, comme nous l'explique Frédéric Ducrot, président du Volant Airois, avec lequel nous avons échangé le jour de la reprise, le 8 juin dernier.
Toutes les compétitions sont encore suspendues jusqu'en septembre, mais par contre, vendredi, nous avons reçu une très bonne nouvelle de notre mairie qui nous a autorisé à réouvrir nos séances. Alors pas comme d'habitude, bien sûr, puisque il y a un protocole sanitaire assez contraignant à suivre. Et donc aujourd'hui, ce soir, ça va reprendre là. L'important, c'est de reprendre le contact avec les licenciés, encore une fois, et que eux puissent venir, entre guillemets, se faire plaisir. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas sur des préparations physiques, des préparations d'entraînement. On est sur retrouver le terrain, retrouver les raquettes, retrouver le volant. Et je pense que ça va faire du bien pour beaucoup.
Et alors, ça se passe dans quelles conditions ? Quelles sont les consignes sanitaires à respecter ?
Alors, nous avons reçu une feuille de route de la Fédération française de badminton que nous avons suivie et on doit mettre en place un protocole de pratique concret à chaque séance, c'est-à-dire une contrainte. Par exemple, là, on va limiter à 8 joueurs puisqu'on c'est maximum 10, mais si on met un ou deux entraîneurs, ils seront 10. On ne peut jouer qu'en simple, en 1 contre 1. On doit venir avec son propre matériel, ses propres volants. nous ne pouvons pas prêter de matériel. Si on prête le matériel, on est obligé de tout désinfecter et c'est une charge importante pour nos entraîneurs. On doit mettre en place des créneaux très stricts au niveau horaire. Donc c'est 1h30 de créneau. On doit fermer les portes, personne ne rentre. Enfin, c'est assez contraignant, assez strict, mais c'est le prix à payer pour pouvoir rejouer dès ce jour. Voilà.
Et pour terminer, comment vous voyez l'avenir pour le monde sportif ?
Oh, bah, faut être positif. Je pense que là, dans les semaines qui suivent, toutes ces barrières vont tout doucement s'alléger. Maintenant, je ne pense pas qu'on pourra retrouver d'ici un mois la situation telle que l'on connaissait en début d'année 2020. Mais on a bien tous entendu que la pandémie, entre guillemets, était terminée. Il faudra être vigilant. Peut-être que l'on aura quelques changements dans nos habitudes. Alors, est-ce un mal, est-ce un bien? Je ne sais pas, je suis pas juge là-dessus, mais moi je suis positif, je pense que ça va se remettre en place, mais progressivement.
Est-ce que vous craignez une baisse de licenciés pour la rentrée prochaine?
Alors oui, on a échangé avec des amis qui sont aussi dirigeants dans d'autres associations. Ça par contre, c'est une crainte qu'on retrouve chez chacun, de se dire, bon, alors est-ce que les gens vont peut-être, hésiter à ce que les enfants reprennent leur licence. Donc ça sera à nous aussi à avoir une communication importante sur « je peux jouer en toute sécurité ». Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on va devoir peut-être changer quelques petites choses par rapport à avant. D'autres me disent bah, « les gens ont pris l'habitude de faire du sport par eux-mêmes pendant cette période de confinement, donc ils vont peut-être continuer et peut-être ne plus trop moins revenir vers les associations sportives ». Donc oui, c'est une crainte partagée par pas mal d'associations, les collectivités m'ont aussi donné ce discours, donc mais là on verra, j'espère que nos licenciés feront preuve aussi de solidarité par rapport à leur club, puisque je le rappelle tout le temps, hein, même si on a des salariés, on est une association avant tout. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer.
Vous aurez donc toute l'actu du club de badminton sur leur page Facebook, Le Volant et Roi. Cette interview téléphonique a été réalisée le 8 juin dernier par Mélissa Millet pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà pour ce reportage de Banquise FM. Dans quelques instants, ce sera l'actu associative juste après Yannick Noah et son dernier single, Encore temps.
Radio Plus sur internet au www.radioplus.fr et par téléphone au 09 52 22 22 07. Radio Plus, la radio pas comme les autres.
Il y a de la magie dans le vent, la vie au fond des eaux, les sommets toujours plus hauts.
Il est encore temps.
Laissons rêver nos enfants, peu importe les saisons, les motifs ou les raisons.
Il est encore temps.
Ensemble on ira chercher demain. Ici et là-bas, donne-moi la main. Car il est encore temps. Il est encore temps. Ici et maintenant, demain nous attend. Il est encore temps, c'est jamais trop tôt. Ici et maintenant, il est encore temps. Imagine-nous plus grand pas, ce que nous voudrions moins. L'avenir n'est pas si loin.
Il est encore temps.
Écoute monter ce chant par les rues et les chemins. Une place pour chacun.
Il est encore temps.
Ensemble on ira chercher demain. Ici et là-bas, donne-moi la main. Car il est encore temps.
Il est encore temps. C'est pas trop tôt. Ici et maintenant.
Nos océans, retrouver nos
Yannick Noah avec Encore Temps sur Radio Plus. Et on passe donc à l'actualité associative dans Fréquence Association. Et on commence par le monde du sport. De nombreux scandales ont émaillé le monde du sport ces dernières années. Citons par exemple le cas de l'ancienne championne de tennis française Isabelle de Mongeau, victime de viol de la part de son entraîneur Régis de Camaret, qui aura mis des années à parler de ces faits, et si ceci était prescrit, l'entraîneur a été condamné en 2014 à 10 ans de prison en appel pour le viol de deux autres joueuses. Autant d'affaires qui poussent le ministère des Sports à contrôler l'honorabilité des dirigeants des clubs et associations sportives. Et donc pour prévenir les violences, en particulier sexuelles, dans le milieu du sport, le ministère va systématiser les contrôles d'honorabilité à tous les encadrants et dirigeants, salariés comme bénévoles. Le ministère s'appuiera sur l'article de loi L212-9 du Code du sport qui dispose que nul ne peut exercer des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'activités physiques et sportives, qu'il soit rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits suivants: violence, agression sexuelle, trafic de stupéfiants, risque causé à autrui, proxénétisme et infraction assimilée, mise en péril de mineurs, usage de stupéfiants ou incitation à leur usage, dopage et enfin fraude fiscale. Une association peut-elle choisir ses membres? Le principe de liberté contractuelle permet aux associations de choisir librement leurs membres en fixant des critères que le futur adhérent doit remplir. Cependant, il est interdit d'utiliser des critères discriminants tels que les origines, le sexe, la situation de famille, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, l'orientation sexuelle, l'âge et les opinions politiques, les activités syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Voilà, concernant donc ces critères qui sont totalement bien sûr interdits pour choisir les membres de son association. Cependant, une association peut poser des conditions d'âge, de sexe, de qualification professionnelle et d'autres critères uniquement si cette exigence est bien en lien avec l'objet de l'association. Un bon exemple serait une association permettant à des femmes victimes de violences conjugales de trouver un espace de parole, et l'association peut dans ce cas réserver son seul accès aux femmes uniquement. Une association peut également déterminer librement ses membres. S'il s'agit par exemple d'une association d'anciens élèves d'un lycée, il va de soi qu'on privilégiera les anciens élèves en question. Cependant, il faut rester vigilant, car fixer des conditions trop restrictives peut avoir des conséquences fiscales, car ensuite c'est la notion de cercle restreint qui entre en jeu. Et puis on termine avec l'appel à projet Mob Biodive 2020, les associations pour la biodiversité, lancé par le ministère de la Transition écologique et l'Office français de la biodiversité. Cet appel à projet, doté de 4 millions d'euros, propose 4 thématiques, restaurer, protéger les écosystèmes et leurs fonctionnalités, intégrer la biodiversité dans l'aménagement et la gestion des territoires, optimiser les systèmes économiques et financiers pour allier développement économique et préservation de la biodiversité, et enfin faire progresser le savoir, l'apprentissage et l'innovation en faveur de la préservation de la biodiversité. Attention, cet appel à projet est réservé uniquement aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L141-1 du Code de l'environnement. Les porteurs de projet peuvent également être agréés dans un cadre national et figurent alors sur l'annexe de l'arrêté du 12 décembre 2018 qui porte la publication d'une liste d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement dans le cadre national. Enfin, d'autres associations de protection de l'environnement agréées par arrêté préfectoral dans un cadre régional ou départemental peuvent également être bénéficiaires de cet appel à projet. Alors vous trouverez cet appel à projet sur le site www.demarche-simplifiée.fr dans la rubrique commencer et c'est appel à projet Mob Biodiv 2020. Alors attention, il y a deux sessions avec deux adresses différentes, c'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier avant le 21 juin et là il va falloir se dépêcher pour le remplir, ou vous avez une autre session prévue le 4 septembre. Voilà concernant cet appel à projet. C'est la fin de Fréquence Association. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouverez en podcast sur le www.radioplus.fr dans le cours de la journée. D'ici là, eh bien, je vous laisse avec la suite des programmes sur Radio Plus. Dans quelques instants, vous allez retrouver Microscope, le magazine des radios associatives du nord de la France, avec donc 4 reportages. Et ensuite, vous retrouverez votre émission Savoir Plus, où on parlera du parc d'Olin. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de Radio Plus.